À chaque fois que j'entends parler d'un règlement européen qui va être adopté ou d'une directive que la Commission européenne va mettre au vote, l'ennui me submerge immédiatement. C'est pas bien, je sais. Mais je sais aussi que je ne suis pas le seul que les institutions européennes ramollissent significativement.
Le code a changé.
Pourtant, quand j'ai entendu parler en novembre dernier de la directive Omnibus numérique que la Commission européenne voulait faire adopter, j'ai eu un léger sursaut. Pourquoi donc proposer une simplification des règlements sur le numérique qu'on a mis tant de temps à adopter et qui me semblait plutôt faire la fierté de l'Union européenne ? Alors, je pense en premier lieu au fameux RGPD, le Règlement Général sur les Données Personnelles, qui a bien des défauts, mais qui a quand même permis d'imposer dans l'UE l'idée que la protection des données personnelles est essentielle et qui a montré au monde qu'en Europe, on était soucieux des droits et des libertés numériques.
Xavier de la Porte.
Donc, quand j'ai entendu qu'il y avait comme projet de rogner sur les droits acquis, j'ai tendu un peu l'oreille. Avant de la refermer aussitôt, parce que à ce moment-là, en novembre 2025, on fêtait aussi la première année du second mandat de Donald Trump, avec un déferlement de déclarations et d'actions plus inquiétantes les unes que les autres. Le Venezuela, le Groenland, etc. etc. Et puis, j'ai lu un texte qui a provoqué un regain d'intérêt. Il s'agissait d'une tribune qu'a envoyée au Nouvel Observateur, le journal pour lequel je travaille, un jeune chercheur du nom de Thomas Le Boniek. Dans ce texte, Thomas faisait précisément le lien entre cette directive de l'Union européenne et la folie trumpienne. Tout à coup, tout s'est éclairci pour moi. En fait, se joue là quelque chose d'important, de très important, voire de crucial. Sans doute une part de notre avenir numérique. Et pas que numérique d'ailleurs. Alors je me suis dit, ok, il faut absolument parler de ça. Et ça m'intéresse d'autant plus que ce soit Thomas qui en parle. Parce que c'est pas un doctorant ordinaire, Thomas Le Boniek. La première fois que j'ai entendu son nom, c'est parce qu'il avait lancé l'alerte dans une vaste affaire d'écoute illégale qui impliquait Apple et son assistant vocal Siri. Un lanceur d'alerte devenu chercheur qui se mobilise contre une directive européenne passée largement sous les radars, ça c'est alléchant. J'ai donc demandé à Thomas Le Boniek de venir me raconter tout ça à la maison de la radio, et quand il s'est installé, on est entré tout de suite dans le vif du sujet. Je lui ai dit, alors, pour toi, cette directive Omnibus numérique, c'est vraiment un drame ?
C'est effectivement une catastrophe. L'image qui m'est venue en tête la première fois que j'en ai entendu parler, c'est celle d'une marée noire. Marée noire sur la vie privée, marée noire sur les données personnelles. Ça a l'air d'être un truc un peu abstrait, lointain, mais en réalité, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est un pilier de la démocratie. En fait, on ne peut pas être un citoyen libre si on est constamment sous surveillance. L'enjeu principal lorsqu'on est en train de parler de protection des données, c'est celui de la lutte contre la surveillance de masse. Donc la surveillance de masse, quand on la nomme comme ça, on se dit « c'est le fait des États ». Ce n'est pas seulement le fait des États, en réalité, c'est souvent aussi désormais le fait de grandes multinationales privées et notamment américaines. En posant ce contexte-là, lorsqu'on parle de la directive Omnibus qui est proposée par la Commission européenne au vote cette année, on est effectivement dans un scénario noir en ce qui concerne la possibilité de vivre en démocratie en Union européenne.
Ah ouais, carrément. Tout de suite les grands mots. Surveillance de masse, démocratie, droit fondamental. Il y va pas avec le dos de la cuillère, Thomas. Alors que quand on regarde ce qu'en dit la Commission européenne elle-même, la directive Omnibus, elle ne vise qu'à simplifier les règlements. Il s'agit, je cite, « d'une série de modifications techniques apportées à un vaste corpus de législation numérique sélectionnées pour apporter un soulagement immédiat aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens et pour stimuler la compétitivité ». Dit comme ça, on voit pas bien en quoi c'est une menace pour la démocratie. Alors, je demande à Thomas de préciser sa pensée.
En gros, son prétexte, c'est de dire on va permettre aux entreprises européennes d'être plus innovantes, d'être plus compétitives. Et donc pour ça, on va alléger leurs obligations légales en ce qui concerne les droits des personnes concernées. Donc vous avez des données personnelles qui sont AP, collectées par tous les sites internet que vous fréquentez. Normalement, le RGPD vous garantit le fait que vous soyez au courant, que vous ayez aussi un droit d'opposition, que vous ayez un droit d'accès. Déjà, le droit d'accès, en fait, est purement et simplement démantelé. Lorsque vous exercez votre droit d'accès, vous écrivez à, par exemple, on va dire Iberia, parce que vous avez pris un avion chez Iberia, et vous leur dites, moi je voudrais avoir accès aux données personnelles que vous avez sur moi, je voudrais savoir comment vous les avez traitées, avec qui vous les avez partagées. Mmh. Iberia, sur le principe, est censé vous répondre dans un mois, et vous dire, on a partagé ça à 500, 600 autres entreprises, des data brokers, des analystes, qui font du pistage sur Internet et qui revendent ça pour faire de la publicité ciblée, notamment. Avec cette réforme, en fait, vous vous retrouvez avec un responsable de traitement, donc ici Iberia, qui a le droit de dire non. Qui a le droit de dire « Ah, mais votre demande, en fait, elle est exagérée. Votre demande, elle relève pas exclusivement de la protection des données personnelles. » Vous vous retrouvez avec une entreprise qui est jugée partie. Elle peut décider de la légitimité de votre demande. Et ça, c'est particulièrement inquiétant dans le contexte de litige potentiel. C'est un des droits principaux qui ont montré leur effectivité depuis la mise en application du RGPD. Parce que avec ça, vous pouvez confronter, par exemple, les déclarations de l'entreprise par rapport à ses pratiques réelles. Si vous n'avez même plus accès à ces informations-là, c'est fini. Rien que ça, ça enfonce un coin dans ce qu'est l'application du RGPD à l'heure actuelle.
C'est très important ce que Thomas dit là. Ce retournement. Ça signifie que le responsable du traitement de données personnelles, bon, c'est en gros l'entreprise qui récolte ces données, hein, peut refuser une demande d'accès aux données personnelles parce qu'il la considère comme abusive. Or, aujourd'hui, quelle entreprise ne récolte pas de données personnelles sur ses clients ? Quand on prend une carte de fidélité, ben, on donne plein d'informations personnelles. Quand on badge quelque part, on laisse plein de données personnelles. Et évidemment, à chacun de nos actes numériques, c'est la même chose. Quand on commande un truc en ligne, quand on utilise une application de navigation, quand on écoute de la musique sur une plateforme de streaming, etc., etc. Bon, avec le RGPD, on a, en théorie du moins, le droit de savoir quelles sont les données collectées par ces entreprises et de savoir à quoi et à qui elles servent. Alors, ça, c'est précieux individuellement. Mais ça l'est aussi collectivement, parce qu'en cas de litige, on peut porter plainte auprès des agences de protection des données, comme la CNIL en France, qui, le cas échéant, peuvent mettre des amendes à ces entreprises, ce qui est censé faire changer l'usage. C'est tout ça qui risque de changer avec la directive Omnibus numérique. Et ce serait une restriction majeure. Et ça, en effet, c'est inquiétant. Et ça l'est d'autant plus parce qu'aujourd'hui, me rappelle Thomas, il y a un nouveau et gigantesque gisement de données personnelles.
Il y a un autre élément qui est au moins aussi problématique, qui est toute la modification du RGPD pour y intégrer des modifications relatives au système d'intelligence artificielle. Notamment l'article 9 du RGPD qui décrit quelles sont les données à caractère sensible et l'article 88. Cette proposition d'Omnibus consiste à dire il y a désormais une nouvelle exception, une nouvelle justification qui permet à une entreprise de traiter des données, c'est à des fins d'entraînement d'intelligence artificielle, y compris lorsque ce sont des données à caractère sensible. Je rappelle, les données à caractère sensible, c'est les informations relatives à votre santé, à votre sexualité, au fait que vous apparteniez à un syndicat, vos choix politiques. Et donc, en fait, en allégeant les obligations des entreprises qui font l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle, la Commission européenne prétend rendre plus innovantes les entreprises européennes. C'est faux. C'est tout l'inverse qui se produit, parce que vous ne pouvez tout de même pas vous attendre à ce que, en dérégulant davantage un secteur qui est déjà très fortement dérégulé, à ce que les entreprises qui sont en situation de soumission, les entreprises européennes, tout d'un coup puissent surgir et aller plus avant. En réalité, ce sont les oligopoles américains qui vont en profiter en premier lieu.
Si j'en crois Thomas, donc, cette simplification des règlements en laquelle consiste la directive Omnibus est, en fait, rien de moins qu'une dérégulation. Une dérégulation qui est censée profiter aux entreprises européennes pour plus de compétitivité, puisqu'elles ne seraient plus soumises à des contraintes auxquelles ne se soumettent manifestement pas les entreprises dans d'autres parties du monde, à commencer par les États-Unis. Mais une dérégulation, dit Thomas, qui profitera d'abord aux entreprises américaines qui font déjà de nos données personnelles leur fonds de commerce. Parce que l'Europe, ai-je lu quelque part, est le premier producteur de données personnelles au monde. Mais là, j'ai besoin d'éclaircir quelque chose. Si je comprends bien, au-delà d'une dérégulation, c'est un changement de la définition même de ce qu'est une donnée personnelle.
Oui, ils introduisent en fait l'idée que les données personnelles ont une définition subjective. Auparavant, c'était une définition objective. Une donnée personnelle est définie à l'article 4 du RGPD, il me semble, et donc c'est tout ce qui peut se rapporter à un individu réel, une personne existante. Désormais, il y a une espèce de modification qui consiste à dire « c'est seulement une donnée personnelle si elle est personnelle selon vous ». Vous avez un organisme qui récolte des données pseudonymisées. Donc au lieu d'avoir un nom et un prénom, vous avez une série de chiffres, une clé. Vous pouvez dire « ah, mais ça, ce ne sont pas des données personnelles, puisque moi, je ne peux pas savoir quelle est la personne qui est associée à ça. » Vous pouvez dire « ah, bah non, bah du coup, le RGPD s'applique plus à moi. » Bon, c'est catastrophique. En fait, en gros, ça revient à dire la protection des données personnelles, qui est un droit fondamental des citoyens européens, n'existe plus. Vous n'avez plus le droit de savoir à quoi servent vos données personnelles, par qui elles sont collectées.
Ça a l'air de rien, ça. Mais c'est énorme comme changement de paradigme. Certes, le RGPD posait plein de problèmes dans son application. Mais la définition de la donnée personnelle, elle était là, solide, objective. Que ce soit les responsables de traitement, donc en gros les entreprises, qui participent à définir ce qu'est une donnée personnelle ou pas, eh ben ça, ce serait un bouleversement majeur. Mais là, j'ai une autre question. L'instauration du RGPD a été un long processus, un processus compliqué, mais dont j'avais l'impression qu'aujourd'hui, plus grand monde ne remettait en cause les fondements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Commission européenne se mette en tête de détricoter un droit qu'elle avait elle-même participé à établir, et pour lequel elle avait même été pionnière et admirée ?
En fait, le RGPD a fait des émules dans le monde entier, c'est sûr. Il y a plus d'une centaine de pays qui se sont inspirés du RGPD pour créer leur propre législation sur la protection des données personnelles. Ce qui crée une situation paradoxale. Il est très probable que si cette directive est adoptée sous sa forme actuelle, on se retrouve avec des pays hors de l'Union européenne qui sont plus protecteurs que l'Union européenne. C'est quand même un sacré coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, mon avis est assez simple. C'est que le RGPD, qui est quand même déjà un texte de compromis, n'est pas entré en application. Si on avait une application concrète du RGPD à l'heure actuelle, une application réelle et des sanctions sérieuses, Meta aurait cessé d'exister en Europe. Et je pense que c'est ça, en fait, l'enjeu principal. C'est que le RGPD a été identifié désormais comme un obstacle très sérieux à la commercialisation des données personnelles. Et donc, en fait, c'est un obstacle au capitalisme de surveillance. Donc, c'est très simple. À l'heure actuelle, on a une confrontation entre les droits fondamentaux et le capitalisme de surveillance, et la Commission européenne a choisi le capitalisme de surveillance.
En utilisant ce terme de capitalisme de surveillance, Thomas fait référence à une notion forgée par une sociologue américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, dont j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes. Bon. Shoshana Zuboff, elle a publié en 2019 un livre nommé Capitalisme de surveillance. C'est un livre important de la littérature sur le numérique et qui a mis un nom sur ce qu'elle appelle, Zuboff, un nouvel ordre économique. C'est intéressant de l'écouter le définir elle-même.
The capitalism in surveillance capitalism depended upon.
Le capitalisme de surveillance repose sur une découverte très intéressante et très puissante, et sur une grande idée. Cette découverte est que quand quelqu'un est de quelque façon que ce soit effleuré par Internet, il laisse derrière lui des traces de signaux comportementaux qui ne sont visibles que pour les machines. Ce ne sont pas les données personnelles que nous choisissons de partager. Ce sont des signaux de notre activité en ligne, mais aussi hors ligne. Cela peut être le ton de votre voix, votre mode de vie, si vos épaules sont voûtées, où porte votre regard quand vous conduisez. Tout cela, ce sont des signaux comportementaux qui sont captés sans que les usagers en aient conscience, puis qui sont transformés en actifs commerciaux, agrégés et analysés pour faire de la prédiction comportementale. Des signaux comportementaux à haute valeur prédictive dont personne ne connaît l'existence.
Ces signaux-là, ils permettent de fabriquer des profils que vendent les entreprises du numérique à des marchands de données, les data brokers, qui les revendent à leur tour à des annonceurs. Mais pour obtenir ces données, il faut nous surveiller. Et ce qu'apporte de nouveaux Zuboff, c'est de documenter très précisément des outils et des techniques de surveillance qui ont été progressivement installées par tous les services qu'on utilise au quotidien. Elle documente aussi la manière dont ces entreprises, bon, je parle des GAFAM, hein, mais il y a plein d'autres entreprises du même genre, soit profitent de zones de non-droit, soit violentent le droit. Et ben voilà, le RGPD, mais aussi d'autres règlements européens, visaient à réguler ce nouvel ordre économique, ce capitalisme de surveillance. Donc la question, c'est la conversion des leaders européens à un modèle contre lequel ils avaient suffisamment de prévention, manifestement, hein, pour avoir l'ambition de le réguler. Qu'est-ce qui a changé dans les rapports de force au sein de l'Union européenne pour que cette conversion ait pu avoir lieu ?
Je crois qu'il y a quelque part des habitudes qui ont été incorporées, dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Ils n'arrivent pas à changer de logiciel. Je pense qu'ils sont dans l'incapacité de se dire désormais « Ok, on a changé d'époque et les États-Unis ne sont plus nos alliés ». On constate quand même que depuis l'entrée en application du RGPD, celui-ci n'a pas été appliqué comme il le devrait. Là, il s'agit plutôt de modifier le texte pour le faire adhérer à la réalité actuelle qui est l'absence totale de régulation et notamment en ce qui concerne les principales entreprises américaines en Europe. Par exemple, cette proposition de loi omnibus numérique, elle est portée par une commissaire européenne qui s'appelle Henna Virkkunen, qui est aussi déléguée à la souveraineté numérique de l'Europe. C'est proprement hallucinant parce que justement, ce texte va détruire toute velléité de souveraineté numérique en Europe, même si ça fait 20 ans au moins qu'il n'y en a pas. Que ce soit dans les gouvernements nationaux ou au niveau de l'Union européenne, il n'y a jamais eu la moindre politique pour défendre des outils européens, des outils qui ne soient pas soumis au bon vouloir du gouvernement et des entreprises américaines. On le sait depuis l'affaire Edward Snowden que Angela Merkel, François Hollande étaient plus ou moins directement mis sous écoute, que toutes les données qui sont collectées par Microsoft, par Amazon, par Facebook, par Apple sont accessibles à tout moment par les 20 et quelques agences de surveillance américaines, et ce, de manière indifférenciée, qu'on soit un allié sur le plan géopolitique ou pas des États-Unis. En fait, il y a depuis très longtemps une incurie totale au niveau de la Commission européenne et des États nationaux là-dessus.
Mais c'est compliqué de comprendre pourquoi. Ok, il y a la difficulté à changer de logiciel, comme l'a dit Thomas, à comprendre que les États-Unis ne sont plus nos alliés. Mais bon, est-ce qu'ils l'ont jamais été sur le plan numérique ? Il faudra se poser la question. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça ? Et là, j'hésite entre deux hypothèses. Soit les leaders européens ne comprennent pas les enjeux, soit ils sont victimes d'une forme d'impuissance, le sentiment qu'il est impossible de faire autrement.
On pourrait tout à fait faire autrement. Donc moi, je pense que c'est une question d'incompétence, ouais, c'est une question de manque de connaissances sur le sujet. Il n'y a pas si longtemps, Ursula von der Leyen avait prononcé un discours où elle disait, je cite, « Lorsque nous avons négocié l'actuel budget, nous pensions que l'IA n'approcherait la capacité de raisonnement d'un humain que vers 2050. Maintenant, nous nous attendons à ce que cela se produise l'an prochain. » En fait, c'est que des bouts de citations, de discours ou de livres de Sam Altman ou d'autres charlatans de ce genre qui ont un intérêt très clair à raconter que l'intelligence artificielle va tout résoudre, tous les problèmes de l'humanité d'ici à 2035. Quoi.
Pourquoi l'exemple que Thomas donne là est intéressant ? Parce qu'il montre que la présidente de la Commission européenne elle-même, Ursula von der Leyen, se trouve prise au piège des discours produits par les industriels du secteur. Quand elle dit que l'IA approchera la capacité de raisonnement d'un humain l'an prochain, eh bien, von der Leyen, elle reprend à son compte des prévisions qui ne sont pas celles des scientifiques. Eux, ils sont beaucoup plus mesurés sur ce type de projection. D'autant qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que ça signifie vraiment pour une machine d'approcher les capacités de raisonnement d'un humain. Mais on voit bien où on les entend, ces discours. Le plus souvent, chez les gros acteurs de l'IA. Sam Altman, le patron de OpenAI, mais aussi d'autres patrons de boîtes de l'IA, qui ont tout intérêt à les tenir, ces discours. Notamment pour attirer les investisseurs dont ils ont besoin pour financer les coûts gigantesques que nécessite l'IA. Et parfois, c'est même assez retors. Parce que ces acteurs-là, ils entretiennent une forme d'angoisse à ce sujet. Ça, c'est mon bien-aimé collègue Rémi Noyon qui le notait récemment dans sa super newsletter 420 ppm. Il racontait comment Dario Amodei, le patron d'Anthropic, une des boîtes les plus en avance du secteur, agite le spectre d'une super IA pour bientôt en effrayant le chaland sur les risques que ça comporte. Et là, le sous-texte, c'est « Nous, Anthropic, on fera plus gaffe que les autres, alors investissez chez nous ». Alors, c'est sûr que c'est un peu étonnant de voir des leaders politiques aussi importants que Ursula von der Leyen reprendre à son compte des projections somme toute assez fantaisistes, ou en tout cas qui ont une utilité essentiellement financière et commerciale. Donc, dans l'aveuglement d'une grande partie des dirigeants européens, il y a de l'incompétence. mais pas seulement, si on en croit Thomas.
Ça relève aussi d'une question idéologique. En fait, en gros, j'ai l'impression qu'ils sont trop vieux dans leur tête pour changer de perspective. Et donc, leur perspective, elle est nécessairement néolibérale. Et par conséquent, dès qu'on est dépassé, dès qu'on se sent dépassé en termes d'innovation ou pseudo-innovation, alors il faut qu'on devienne plus compétitif. Et pour être plus compétitif, alors il n'y a qu'une solution, c'est supprimer les normes qui existent à l'heure actuelle. Et voilà, et ils n'ont pas d'autre solution.
Thomas, il n'est pas le seul à défendre cette idée d'élites européennes qui sont coincées dans une logique néolibérale. Dans un livre récemment paru, Le capitalisme de la finitude, l'historien de l'économie Arnaud Aurin développe à peu près la même idée. Les leaders européens, leaders économiques et politiques, vivent encore dans un monde néolibéral, pense Aurin. Un monde où on croit que le marché libre garantira la paix, où, pour l'organiser, on passe des accords de libre-échange et où, au mieux, on régule. Mais selon Aurin, le monde a changé de paradigme. Et l'Europe fait aujourd'hui face à des adversaires, à commencer par les États-Unis et la Chine, qui sont dans un autre capitalisme. Un capitalisme qu'il nomme donc le capitalisme de la finitude, parce que ce système prend acte du fait que les ressources de la planète sont finies et que la seule solution, c'est de les accaparer. Alors, ce nouveau stade du capitalisme, il implique donc un retour du colonialisme. C'est ce qu'on voit avec Trump et ses ambitions groenlandaises, mais aussi un État interventionniste et la création de monopoles. Alors, ce que Aurin regarde du point de vue industriel, Thomas, lui, il regarde dans la technologie. Pour lui, les leaders européens n'ont pas compris que ces entreprises de la tech n'obéissent plus à une logique néolibérale. Elles cherchent plus la libre concurrence. Elles veulent des positions monopolistiques qui comportent par ailleurs des éléments de souveraineté assez proches de ceux des États. Et quant au gouvernement ? Qu'ils soient américains ou chinois, eh ben, ils sont super interventionnistes quand il s'agit d'assurer cette domination. Et nous, en Europe, on est encore là à bouger les curseurs de la régulation, comme si les normes juridiques, c'était le problème. Et comme si ça allait suffire à nous en sortir. C'est sans doute, comme le dit Thomas, parce que les leaders européens ont du mal à sortir de leur ancienne logique. Mais il y a peut-être une autre raison. Les rapports de force politique, eh ben, ils ont changé au sein de l'Union européenne ces dernières années. Les partis d'extrême droite sont montés partout en Europe. Il y a aujourd'hui un groupe très conséquent au sein du Parlement européen avec lequel il faut composer. D'où la question que je pose à Thomas. Quelle idée se font les partis d'extrême droite du numérique et de la protection des données personnelles ? Eh bien lui, il relève un paradoxe.
D'un côté, vous avez des gens comme le Rassemblement National ou Éric Zemmour qui ont complètement adopté l'idéologie de la surveillance à tout crin. Surveiller tout le monde, c'est assurer la sécurité de tout le monde, en fait, c'est un peu ça leur idée, c'est un peu ça leur équation. Donc il faut absolument multiplier la surveillance partout, tout le temps. Donc d'un côté, ils sont très pour la surveillance de masse. Et de l'autre, j'ai l'impression que paradoxalement, ils se disent « Ah ouais, bah, peut-être que ça peut se retourner contre nous tant qu'on n'est pas encore au pouvoir. » Mais en tout cas, c'est sûr que c'est très inquiétant. Ouais. En fait, plutôt le vrai paradoxe que je constate, c'est que ce sont des gens qui sont très nationalistes et xénophobes, et en même temps, c'est les premiers à servir de marchepied à ce néo-impérialisme américain qui est désormais en train de chercher explicitement à écraser l'Union européenne.
C'est pas faux, ça. Ce paradoxe, d'ailleurs, on le constate dans l'attitude ambiguë des extrêmes droites européennes vis-à-vis du trumpisme en général. Entre fascination, parce que Trump applique dans son pays et autour de son pays une politique qui leur sied tout à fait, et crainte, parce que Trump, c'est aussi une menace pour l'Union européenne, et donc, à terme, pour les intégrités nationales. Mais c'est vrai que, sur le plan numérique, c'est un peu la même chose. D'abord, les partis d'extrême droite européenne n'ont pas vraiment de position unifiée sur la protection des données personnelles. Certains disent vouloir les protéger, mais en même temps, d'autres ont pour ambition l'abolition du RGPD parce qu'il incarne la bureaucratie européenne, qu'ils détestent par ailleurs. Bon, tout ça, au final, c'est pas très clair. Mais ils sont pas les seuls à pas être très clairs. Le Parti Populaire Européen, par exemple, qui est la grande alliance de centre-droit, en théorie grande défenseuse d'une Europe forte et souveraine, vient de choisir sa négociatrice pour la directive Omnibus. Il s'agit d'une députée finlandaise du nom de Aura Sala. Or, entre deux mandats européens, qu'a fait Aura Sala ? Elle a été directrice des politiques publiques et responsable des affaires européennes chez Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg. Ce qui fait d'ailleurs que le journal Politico l'appelle la femme de Zuckerberg à Bruxelles. Alors, c'est assez ahurissant de choisir pour négocier une directive aussi sensible pour les données personnelles, une personne liée à une entreprise américaine qui a tant besoin de toujours plus d'accès à nos données personnelles. Bref, quand on voit des trucs comme ça, on se dit qu'on risque en effet de se soumettre encore un peu plus aux États-Unis.
Bon, c'était déjà le cas, hein. L'Union européenne est sous domination complète et totale des États-Unis depuis 20 ans. Microsoft a été accueilli à bras ouverts dans l'éducation nationale, que ce soit sous François Hollande ou avant ou ensuite. Hein. Le ministère de l'Éducation nationale a signé des contrats pour plusieurs millions d'euros et pour équiper les enfants avec des tablettes Microsoft. L'éducation numérique à l'heure actuelle, ce n'est pas apprendre ce que c'est le code ou le logiciel libre, c'est Teams, la suite bureautique Microsoft, etc., etc. On a la même chose à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. L'école polytechnique, il y a encore quelques mois, était en train de décider de signer un contrat ou non avec Microsoft pour placer dans ses serveurs les données de ses chercheurs et de ses salariés et de ses étudiants, y compris des données considérées comme d'intérêt stratégique souverain pour la France. Donc en fait, on est déjà depuis un certain temps dans une situation de vassalisation de l'Union européenne en termes de numérique. Mais par contre, il y a vraiment un changement d'époque avec la réélection de Donald Trump et son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2025. On passe d'une domination vassalisée, un peu contractuelle, à une administration qui décide clairement, explicitement, qu'il faut démanteler l'Union européenne, ça fait partie de leurs objectifs. Les lois européennes, il faut les détruire. Il faut installer la loi américaine explicitement dans l'Union européenne. Et ça, c'est pas très différent en termes d'objectifs de ce qui s'est passé au Venezuela. Parce qu'à l'heure actuelle, le Venezuela, de fait, est devenu un protectorat américain.
Voilà. C'est ça qu'il faut que Thomas m'aide à comprendre maintenant. Comment le numérique entre dans une stratégie américaine globale?
Le code a changé.
Eh ben, ce sera dans le prochain épisode.